Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. C'est une maladie qui ne se soigne pas encore, même si la recherche médicale avance. Une pathologie neurodégénérative qui effraie à mesure que l'on vieillit. La maladie d'Alzheimer qui touche environ 1 million de personnes. Environ 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Une maladie à l'impact traumatisant pour l'entourage des patients. Comment repérer les premiers signes alors que la maladie commence son travail de sape une quinzaine d'années avant sa déclaration de guerre? Comment faire face? Comment mener la bataille? Est-il possible de prévenir et d'éviter un combat difficile? Mobilisation générale ce matin, notre bataillon d'experts vous délivrera des armes pour faire face à l'Alzheimer et dans la mesure du possible éviter ces assauts à partir de la quarantaine. Nous attendons vos questions au 01 45 24 7000 et en laissant un message, une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour docteur Adrien Chaboche.
Bonjour Ali.
Vous remplacez cette semaine Baptiste Beaulieu. Quel est le menu de votre chronique?
Aujourd'hui, une chronique qui s'intitule « Docteur, dites-lui, ne t'oublie pas ».
Et c'est le retour du patriarche de cette émission, blanchi sous le harnais, qui conserve le calme des vieilles troupes en toutes circonstances, le général Thierry Lhermitte, qui combat aux côtés de la Fondation pour la Recherche Médicale. En fin d'émission, vous nous raconterez les espoirs de la recherche en matière d'Alzheimer.
Oui, j'ai été visiter le laboratoire de Ronald Melki au CEA à Fontenay-aux-Roses.
A tout à l'heure Thierry, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Comment ça va?
Ça va. Et toi?
Ça va super.
Comment il s'appelle ce con?
Je me souviens jamais de mon prénom.
Faut que je trouve un truc pour retrouver son prénom.
Dis donc, t'as grandi, hein? Fais voir ta carte d'identité pour voir comment t'as changé. Bon, c'est pas terrible, mais ça marche. Eh ben dis donc, Thomas, t'es marrant, hein? T'es né à Nogent-sur-Marne, comme mon fils.
Ouais. Ouais, il a fait tout le temps, celle-là.
Et avec ta copine, ça va bien?
Bah, alors je l'ai quitté. Avant, j'étais avec Beyoncé, et maintenant, je suis parti avec Rihanna.
Ah ouais,
je connais pas. Bah c'est dommage.
Elle était sympa. Mmh. Ouais, pas futé-futé, mais sympa quand même.
Ouais. Je vous ai pas dit, il est pas fou, et moi je suis pas mytho. C'est mon père, et il a la maladie d'Alzheimer.
Ah bon?
Et les chercheurs luttent sans relâche contre cette maladie, qui ne se voit pas physiquement.
T'as grandi, toi.
Mais qui fait souffrir le malade et son entourage.
Hé, mademoiselle! À mon café alors.
Un clip de la Fondation pour la Recherche Médicale avec Thierry Lhermitte et Tom Villa. Et pour répondre à vos questions sur la maladie d'Alzheimer, le docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre du sujet âgé, titulaire d'une thèse de philosophie que vous avez passée à 62 ans. Vous accompagnez les patients atteints d'Alzheimer au sein d'un grand hôpital et dans un grand service, le plus grand service de gériatrie en France.
Tout à fait, de 1000 lits environ.
Et vous venez de publier en poche « Que faire face à Alzheimer, gagner des années de vie meilleure », c'est publié au Rocher Poche. Bonjour docteur Jean-Paul Curté.
Bonjour.
Vous publiez « Vous n'aurez pas Alzheimer », un ouvrage de prévention publié chez Le Duc. Vous comprenez que ce titre puisse un peu déranger « Vous n'aurez pas Alzheimer » ?
Oui, il est forcément un peu abusif. Oui. Bon, là, c'est l'éditeur qui a choisi de faire ce titre un peu provocateur. Ceci dit, voilà, on a vraiment des atouts récents qui sont encourageants.
Bonjour Virginie Goutte.
Bonjour.
Vous êtes neuropsychologue au sein du pôle personnes âgées dans un centre hospitalier des Hauts-de-Seine. Alors, rappelez-nous précisément ce qu'est la maladie d'Alzheimer découverte par Alois Alzheimer en 1906. Il s'agit d'une démence neurodégénérative. C'est bien ça, docteur Lefebvre-Desnouettes ?
C'est tout à fait ça, mais nous préférons à l'espace national d'éthique sur la maladie d'Alzheimer parler de maladie neuroévolutive parce que le D de dégénératif est très péjorant. Et il s'agit d'une maladie découverte effectivement par Alois Alzheimer à partir de l'observation de sa première patiente, Augusta D, qui était rentrée chez lui pour des problèmes délirants, des problèmes psychiatriques. Et nous avons la chance d'avoir son image, la description princeps et la pièce autopsique de son cerveau. Et donc c'est un agrégat de protéines anormales, on n'a pas trouvé mieux depuis Alois Alzheimer, de l'apoprotéine A bêta, c'est-à-dire qu'elle va se mettre entre les neurones, on appelle aussi la plaque sénile, ou bien de la protéine Tau qui va dégénérer nos neurones et faire qu'ils vont plus communiquer ensemble.
Des précisions, Virginie Goutte?
Oui, tout à fait. Donc, les atteintes cérébrales sont le signe de la maladie d'Alzheimer, qui vient d'être citée par le docteur Desnouettes. Et ces premiers signes apparaissent 15 à 20 ans, les premiers symptômes qu'on peut observer dans la vie quotidienne.
Quel est l'âge moyen de l'apparition de la maladie d'Alzheimer ?
c'est 65 ans, de 65 ans à 85 ans. Le gros des troubles, c'est plus de 85 ans. Hein. C'est vraiment les personnes très âgées.
Ça veut donc dire que le travail de sable de la maladie commence à la quarantaine, à la cinquantaine, Virginie Goutte ?
On pourrait le supposer. Mais on n'a aucune preuve parce qu'on n'évalue pas nos patients 15-20 ans avant. Donc c'est toute la question du diagnostic précoce. Est-ce qu'il faut qu'on recherche ces patients dans nos protocoles de recherche avant les premiers signes, avant qu'ils déclarent cette maladie, qu'on peut les voir dans nos consultations?
Alors, 10 ou 20 ans avant les premiers symptômes, qu'est-ce qu'on peut constater? Que nous dit la recherche scientifique, Virginie Goutte?
La recherche scientifique nous dit que on peut observer un début d'atrophie. Mmh. On peut donc de l'hippocampe du cerveau, donc une atrophie corticale, mais également une atrophie des hippocampes. Donc les hippocampes, c'est cette structure qui nous permet à enregistrer de nouvelles informations dans cette mémoire épisodique, cette mémoire récente, de nous former de nouveaux souvenirs. Mais également, on peut commencer à voir apparaître cette agglomération de ces plaques amyloïdes ou neurofibrillaires qu'on vient d'évoquer précédemment.
Alors, quels sont les premiers signes visibles de la maladie, docteur Desnouettes ?
La plupart du temps, c'est des troubles de la mémoire immédiate qui retentissent sur les actes de la vie quotidienne. C'est-à-dire communiquer, prendre les transports en commun, utiliser son argent, savoir gérer ses médicaments. Mais c'est une mémoire qui va progressivement annihiler tous les souvenirs, même les souvenirs anciens.
Alors, les facultés cognitives sont altérées, la mémoire, le langage, le raisonnement?
Tout à fait. Donc souvent, la première plainte des patients en consultation, c'est le langage, c'est la mémoire, pardon, excusez-moi. Souvent, ce ne sont pas les patients eux-mêmes qui se plaignent, mais leur famille. Et après, on observe en effet un gradient qui touche toutes nos facultés cognitives, qui touche le langage, les gestes, le raisonnement, la capacité de faire plusieurs choses en même temps.
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les lésions s'étendent et cela entraîne d'autres troubles.
Oui, et les plus inconfortables, c'est bien entendu, en fin de parcours, ne pas reconnaître ses proches. On appelle ça la prosopagnosie. C'est l'image de ses proches qui ne vient plus percuter ce que l'on sait.
Alors, on assiste à des difficultés à exécuter des tâches habituelles. Le patient peut être désorienté dans l'espace et le temps. Il peut changer de personnalité, changer d'humeur et de comportement, perdre de l'intérêt pour ses proches, pour ses activités préférées. C'est un peu ça le tableau clinique?
Alors, tout à fait, il y a des patients...
Tout se cumule ou est-ce que c'est... Voilà...
Alors ça dépend des patients. Ouais. Voilà, il y a une maladie d'Alzheimer et des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc on connaît les grandes lignes. Donc en effet, certains vont avoir une modification de la personnalité, du comportement, cette apathie, cette perte de la motivation de faire les choses.
Une aphasie. Une sorte d'aphasie.
Alors l'aphasie, c'est les troubles du langage. Ouais. En effet, pour certains, ça peut apparaître dans le mode production, donc de s'exprimer, mais également de comprendre l'information qu'on peut nous transmettre.
Et qui altère donc la communication avec les proches.
Tout à fait, mais également le monde environnement dans lequel on est. Par exemple, nous, prendre un ascenseur, ça nous choque pas de voir une cabine qui bouge. Un patient Alzheimer va se demander qu'est-ce qui se passe, parce qu'il aura perdu le concept de l'ascenseur.
Docteur Desnouettes.
Alors, aphasie, apraxoagnosie, tous les privatifs, la parole, utiliser les gestes et les reconnaissances. La reconnaissance de soi, la reconnaissance des autres. Et ça fait souffrir énormément, non seulement la personne, mais l'entourage.
Et ça s'étend sur plusieurs années,
oui, c'est très
l'apparition
variable.
De ces symptômes.
C'est tout à fait variable d'un individu à l'autre. Il y a la façon dont on vit, dont on va maintenir les capacités acquises tout au long de la vie, dont on va se stimuler. C'est très important, vous l'avez dit, dès 45 ans. Il y a une prévention, même si on ne sait pas la guérir.
Docteur Curté, sur cette prévention dès la quarantaine, on y reviendra tout à l'heure.
Absolument. Et plus on commence tôt, mieux c'est, étant donné que c'est malheureusement une des percées qu'on vient de faire historique, c'est que la raison principale d'Alzheimer, c'est le vieillissement. C'est une maladie, pour ça qu'on disait dégénérative, même si ce terme est un peu dépréciatif. Mais si vous voulez, ça augmente en même temps que les maladies cardiovasculaires, les cancers, et d'ailleurs qui sont des facteurs de risque.
Oui.
On trouve aussi un vieillissement cérébral global. C'est-à-dire qu'on a autopsié des gens qui ont bien voulu, qu'on étudie leur cerveau après leur mort, et 44% des patients d'Alzheimer ont des lésions de Parkinson. Beaucoup ont des AVC, ils ont fait des AIT, c'est un mélange, si vous voulez, qui a abouti à une détérioration progressive. Mais ça, c'est très marquant, si vous voulez, c'est de l'aggravation. si on oublie ses clés, bon, on va s'affoler. Mais si les choses s'aggravent, qu'on est désorienté, on sort plus à la sortie d'autoroute qu'on connaissait, là, il faut commencer à fouiller un peu.
AIT, rappelez ce que c'est.
C'est un accident ischémique transitoire. On a un petit trouble de vue, de langage. C'est un petit, un micro AVC. Éphémère AVC, mais éphémère en général qui régresse tout seul. Il faut y faire plus attention.
Quelle est la différence entre le vieillissement cérébral naturel où on peut effectivement avoir des pertes de mémoire ponctuelles et puis la maladie d'Alzheimer, docteur Desnouettes?
Eh bien, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie. Hein, c'est-à-dire, c'est pas lié uniquement au vieillissement. Vous l'avez rappelé. Il y a des facteurs de risque vasculaires. Il y a une sensibilité familiale que l'on peut retrouver. Et la grande différence, c'est que on met en vieillissant plus de temps, hein, pour apprendre de nouvelles choses. Mais vous voyez que c'est pas impossible puisque j'ai passé une thèse de philosophie à plus de 60 ans. Donc, et la grande nouveauté, c'est la neuroplasticité du cerveau. Et ça, il faut le cultiver. Il faut continuer à porter ce message d'espoir. Alors que la maladie d'Alzheimer sera plutôt vers une involution des structures du cerveau qui portent la mémoire. Mais il y a des facteurs de risque vasculaire très importants sur lesquels on peut lutter et faire reculer la maladie d'Alzheimer assez simplement et sans que ça coûte très cher.
On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Et nous accueillons Margot. Bienvenue Margot.
Oui, bonjour.
Vous appelez de l'Aude.
J'appelle de l'Aude, oui, bonjour.
Alors, quelle est votre question, Margot?
Eh bien, écoutez, je voulais, oui, me porter, excusez-moi.
Hein. Allez-y.
voilà, je fais partie d'une famille de 7 enfants, et mes deux frères aînés ont eu la maladie d'Alzheimer, et mon père lui-même est mort, enfin, disait-on à l'époque, était sénile. Mmh. Donc, vous comprendrez, moi je suis la plus jeune, hein, mais j'ai 70 ans bientôt. voilà, je me posais la question sur l'hérédité de cette maladie.
Beaucoup de gens se posent cette question, Virginie Goutte.
Alors tout à fait, il y a la question de l'hérédité, surtout quand il y a dans des familles où les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousines. Il faut savoir qu'il y a, la grande majorité sont quand même des formes non héréditaires, mais il existe des formes héréditaires qu'il faut surveiller. C'est pour ça qu'on demande souvent les antécédents médicaux et s'il y a déjà eu des cas de maladies neuroévolutives dans la famille.
Les formes familiales autosomiques dominantes, c'est-à-dire que tous les chromosomes sont atteints, concernent les sujets jeunes et ne représentent que 1% des cas. 99% des cas sont des personnes très âgées.
Merci beaucoup Margot pour votre question. Est-ce qu'Alzheimer touche davantage les femmes que les hommes?
Oui.
Mais est-ce qu'on sait pourquoi?
Alors, avant la ménopause, les femmes sont protégées par leurs hormones. C'est pour ça qu'on a espéré avec des traitements hormonosubstitutifs, mais non, c'est pas une bonne indication. On sait aussi que les femmes très âgées ont eu moins la possibilité de développer leur cerveau. Elles restaient à la maison, elles conduisaient pas que les hommes âgés. Donc c'est un facteur de risque en soi.
Alors, vous l'avez un peu évoqué, docteur Curté, les facteurs de risque cardiovasculaires peuvent favoriser, hélas, la maladie d'Alzheimer?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une maladie, je dirais, énergétique du neurone, on peut voir par des tests, avant même que l'hippocampe se réduise, une moins bonne captation du glucose par d'imagerie cérébrale, et la circulation joue un rôle très important. Les hypertendus, déjà, doublent pratiquement leur risque, et on a donc souvent des reliefs d'AVC, ça s'est mélangé un petit peu. Il y a eu plusieurs agressions, dont cardiovasculaires.
Docteur Desnouettes.
Oui, mais enfin, il faut bien porter ce message-là. Si on est hypertendu, eh bien, il faut se faire contrôler. Et c'est pas un continuum. Ah, vous êtes hypertendu, vous avez développé la maladie d'Alzheimer. Tous ces facteurs de risque vasculaire, on doit pouvoir les faire contrôler.
Virginie Goutte.
Oui, tout à fait. Et je rajouterais même aussi tous les troubles sensoriels qu'on n'évoque jamais, mais les troubles auditifs, visuels, sont aussi à contrôler parce que ça peut majorer des troubles cognitifs.
Pourquoi? On sait pourquoi? Sur les troubles de l'audition, docteur
Desnouettes.
Oui, on
sait tout à fait pourquoi. Parce que le message mémoriel qui va passer dans le petit hippocampe décrit par Madame Goutte, eh ben, sera pas bon. Donc, il va aller se projeter sur une aire du cerveau qui lui est dédiée et on va pas pouvoir se rappeler. Donc, on est très coquet, on veut pas se faire appareiller, on veut pas porter de lunettes, on veut pas mettre d'appareil auditif. On a tort. Il faut le faire. Ça fait vraiment partie de la prévention.
Et il faut faire attention au micro-traumatisme à la tête également, docteur Desnouettes. Je pense aux boxeurs, aux rugby. rugbyman.
Absolument, c'est très connu, très, très renseigné. Et puis aujourd'hui, aux trottinettes, à tous ces modes de pour se déplacer, qui sont très sympathiques, mais il faut vraiment faire attention.
Alors, comment se déroule le diagnostic? Il s'agit d'un diagnostic par étapes. Vous l'écrivez dans votre livre, Docteur Desnouettes, il ne s'agit pas d'une sentence ou d'un couperet. Vous proposez une consultation à 3 temps.
Tout à fait. Premier temps, on va recevoir le malade, s'il le souhaite, son accompagnant, s'il le souhaite, hein, et on va faire un profil de ce qu'il vit. Quel est son niveau culturel, son arbre généalogique, quels sont ses souhaits, comment il vit, est-ce qu'il est dynamique ou elle est dynamique, etc. Ensuite, on va proposer des petits tests de débrouillage que je décris dans mon livre, qui tout le monde peut s'y référer, c'est pas difficile à faire.
Quel type de test ?
Alors, la mémoire immédiate, le calcul à l'envers, des tâches exécutives, la mémoire en rappel. On fait dessiner, on fait écrire une phrase pour voir si toutes les fonctions cognitives sont un petit peu d'équerre ou pas. Et puis ensuite, on viendra le temps des examens complémentaires. On ne fait jamais un diagnostic la première fois. Il faut l'appuyer sur un faisceau de présomption, une imagerie cérébrale, on en a parlé, un IRM. On fait des tests biologiques, on va regarder s'il n'y a pas une anémie, s'il n'y a pas des causes curables de ces troubles de la mémoire. Et puis, on va faire des tests neuropsychologiques qui sont beaucoup plus longs à faire passer.
Virginie Goutte.
Oui, tout à fait. C'est le deuxième temps de la consultation où le patient revient en général pour faire cette évaluation qui peut durer jusqu'à 2h30, où on refait un petit état des lieux, une petite anamnèse, mais surtout on fait des tests de mémoire beaucoup plus poussés que dans cette première évaluation et où on recherche donc le profil type Alzheimer au sein de cette mémoire épisodique, des fonctions exécutives et également le langage.
Allez, il est temps de retrouver la chronique du docteur Adrien Chaboch pendant que Baptiste Beaulieu prend quelques jours de vacances après avoir travaillé tout l'été.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais 1 heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Docteur Adrien Chaboch.
Cher Ali, cher Thierry, que je suis heureux d'être là avec vous.
Quelle emphase!
Et Thierry l'ermite me regarde un peu étonné de cette spontanéité qui paraîtrait presque un peu trop familière. Il me connaît évidemment bien moins que moi. Je ne pense le connaître avec mes souvenirs de lui sur les écrans, les planches de théâtre et les livres dont on se souvient tous d'être avec lui. Oui, parce qu'on est là, dans cette présence faite de chair et d'eau, tous autour de cette table, à partager une idée, à transmettre des informations à tous les auditeurs, quel que soit notre état de forme, olympique, comme toujours pour Ali, ou de fatigue. Non, pas moi. Hein. Un médecin ne parle jamais de lui-même, je vous rappelle. Eh bien, cette présence, elle est réconfortante, rassurante, parce qu'elle est familière. Et ça me fait penser à un couple de patients très âgés qui me touchent et que j'apprécie énormément. Alors, je vais en parler avec émotion. Et oui, je transgresse, je viens de dire que les médecins ne parlaient jamais d'eux en public, mais bas les masques. Ne nous protégeons pas derrière des pudeurs qui voudraient faire oublier qu'on a tous peur de perdre la boule, comme on dit. Gérard et Gisèle sont tous les deux nés en 1928. À 93 ans, cela fait 77 ans qu'ils sont ensemble à vivre vraiment heureux. Aussi surprenant que ce soit, Gérard travaille encore tous les jours et chaque matin il fait son sport. Gisèle, elle, s'est arrêtée jeune vers 70 ans. Incroyable. Mais elle a lentement et sûrement laissé apparaître des troubles de la mémoire alzheimerien qui font maintenant qu'elle n'est que dans un éternel présent suspendu entre deux rien dont le seul repère est son mari. Gérard, malgré tous ses espoirs à chercher un traitement qui se voudrait au moins un peu aidant, a du mal à accepter notre humble impuissance face à l'inexorable. Alors je l'aide comme je peux, mais je sens tant de désarroi. Et un jour, je vois Gisèle me regarder longuement, puis se tourner vers lui, et d'un éclat lumineux de ses yeux, semblant soudainement retrouver quelque chose, lui dire avec beaucoup de précision « Ne t'oublie pas ». On n'en dit pas assez sur ce qu'il y a d'éprouvant à être aidant auprès d'un proche malade. On ne se rend pas compte ce qu'est voir l'amour de sa vie partir comme un polaroïd qui s'estompe chaque jour. Car Gérard sent bien que si elle n'est plus là, alors lui partirait aussi, d'une certaine manière. Je voudrais rappeler la fatigue, l'éreintement, le dévouement de chaque seconde de Gérard et rendre hommage aux milliers d'aidants qu'on oublie trop souvent. Avec légèreté, allez, comme le disait Feu, l'ami Guy Bedos, avant de savoir qu'il allait souffrir d'une forme d'Alzheimer lui-même, Il y a trois avantages à la maladie d'Alzheimer. Le premier, c'est que j'ai que des nouveaux amis. Le second, c'est que j'ai pas de mauvais souvenirs. Et le troisième, que j'ai que des nouveaux amis. L'oubli, c'est de se perdre. C'est se perdre car on perd ceux qui sont autour de nous. Alors, cher Ali, cher Thierry, chers auditeurs, qu'est-ce que je suis heureux qu'on soit tous là.
La chronique du docteur Adrien Chaboche que vous pouvez partager sur l'appli France Inter. Docteur Desnouettes, vous acquiesciez à tout ce que disait...
Formidable, c'est ce que je vois tous les jours dans ma pratique. Et avec, vous avez très bien décrit ce regard qui tout d'un coup s'éclaire. Et ce présent, ce passé qui se présentifie. Mais tous les jours c'est nouveau. Tous les jours il y a des nouveautés, l'oubli a du bon.
Et vous les aimez, vos patients? Dans votre livre, c'est très palpable.
Oui, je les aime parce que ils sont notre avenir. Ils sont des trésors d'humanité. Et j'ai cherché, dans ma thèse, à développer le sentiment d'exister de ces malades d'Alzheimer. Et il est merveilleux. Et il ne se résume jamais à une somme de déficit. Mais ce sont toujours des personnes bien vivantes.
Virginie Goutte.
Je confirme. C'est vraiment notre avenir et... Ils ont beaucoup d'espoir et ils nous transmettent beaucoup d'espoir. À chaque fois, tout est nouveau. Même si, voilà, des fois, c'est un peu plus compliqué pour eux. On sent qu'ils ont aussi une volonté de pas se laisser avaler par cette maladie. Donc vraiment, c'est vraiment très positif.
Docteur Curté.
Oui, moi je pense que c'est vraiment d'actualité d'en parler. Bon, pas seulement parce qu'on est à la veille de la journée, mais la Covid, comme vous le savez, peut avoir des effets de neuro-inflammation. Mmh. Et donc les gens perdent l'odorat. Mmh. Au début, on l'a constaté. Mais il y a une étude qui vient de sortir très récemment en Angleterre, là sur 83 337 patients. Et ceux qui ont eu la Covid ont un déclin cognitif qui correspond à 10 ans d'accélération du vieillissement cérébral. Et ceux qui sont passés par les soins intensifs ont un déclin plus élevé en moyenne qu'un AVC. Donc là, ça devient vraiment préoccupant, vu le nombre de personnes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que...
Quand même.
Oui, ça c'est évidemment pas une bonne nouvelle, qui, si vous voulez, alourdit le problème qu'on avait déjà, une sorte d'épidémie. Et là, qu'est-ce que ça va donner dans quelques années, hein? Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que... Moi, j'ai commencé la médecine il y a près de 50 ans, et ben, j'ai jamais vu autant de percées. De percer, si vous voulez, dans la compréhension. On aura peut-être l'occasion d'en parler, de la maladie prionique, du fait que les protéines pathogènes dont vous avez parlé s'exportent. C'est pour ça que ça gagne. Bon, ensuite,
on reviendra sur la recherche. Voilà, on reviendra sur la recherche en fin d'émission avec Thierry Lhermitte de la Fondation de la Recherche Médicale. Allez, dans quelques instants, nous verrons comment faire face à la maladie d'Alzheimer. Est-il vraiment possible de la prévenir? En attendant, on écoute les Kinks, Waterloo Sunset.
Swarming like
Les Kinks, Waterloo Sunset.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi sur France Inter.
10h32 et ce matin nous attendons toutes vos questions sur la maladie d'Alzheimer au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.
Si déjà il ne se reconnaît plus dans un miroir, je dirais que votre père est entre le stade 5 et 6. Alors ce n'est plus seulement sa mémoire à court terme qui est touchée, mais sa mémoire biographique. Donc il faut vous attendre à ce qu'il oublie des événements très marquants de son passé. Des événements jusqu'ici préservés.
Comme la mort de maman ?
Par exemple. Cela peut être aussi des souvenirs heureux. Hein. Mariage, naissance...
Le final de 98. Non ? Non, 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 ça c'est pas possible.
Croyez-moi, une prise en charge adaptée est de loin la meilleure solution.
Ok, d'accord. Et entre confrères, le protocole c'est quoi ?
On limite la médication à la simple galantamine, pas d'antidépresseurs, pas de calmants qui entretiennent la confusion.
Pardon, mais vous faites comment pour gérer des crises sans calmants ?
Avec humour.
Avec quoi ?
Avec humour.
Vous êtes sérieux là ?
Absolument.
Extrait du film La Finale. Alors une fois diagnostiquée la maladie d'Alzheimer, comment se passe l'annonce ? Beaucoup de témoignages désastreux, docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes.
C'est un moment extrêmement délicat. Et on ne doit jamais annoncer quelque chose de brutal comme ça, dans un coin de couloir, avec des tas de mots savants que les gens ne comprennent pas. Il faut prendre du temps et le cadre est important. Revenir, remodéliser l'annonce. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous voulez que je l'annonce à votre proche ? Parce qu'on a le droit de ne pas savoir aussi. Il y a des gens qui n'ont pas envie de savoir. Moi, j'ai un jeune collègue de 60 ans, médecin, qui a eu la maladie d'Alzheimer. Il a fallu que j'attende 6 mois pour qu'il soit prêt à ce que je l'annonce à son épouse. Donc ça, c'est un moment extrêmement délicat et on forme beaucoup les médecins à cette annonce du diagnostic.
Virginie Goud, je rappelle que vous êtes neuropsychologue. Comment se passe le suivi psychologique pour faire face à l'annonce du diagnostic ?
Alors, en général, on revoit les patients et leurs familles après cette annonce qui est souvent un choc, un traumatisme pour certains. Et on reprend avec eux pour voir ce qu'ils ont compris de cette annonce, les mots utilisés par le médecin, ce qu'ils ont compris aussi de ce qu'on leur propose comme prise en charge. Voilà, d'essayer de comprendre s'ils ont bien compris ce qu'on a dit.
Alors, comment aider les proches, les aidants familiaux à faire face également à cette maladie hein, qui bouleverse l'équilibre et la communication familiale ?
On parle d'un parcours de soins, c'est-à-dire quand on n'annonce pas, voilà, vous avez ça, il n'y a rien à faire, on ne peut pas la guérir. Bien entendu qu'on annonce, je vais vous suivre. Nous avons des consultations de suivi, et le parcours de soins s'occupe à la fois de l'aidant et à la fois du patient, par des stimulations cognitives, par une bonne hygiène de vie, ne jamais laisser son patient tout seul à la maison, reclus, traiter une dépression si elle est là, traiter des facteurs de risque si elle est là, effectivement éviter les médicaments qui ont un impact sur la mémoire immédiate, et préférer toujours les thérapeutiques non médicamenteuses, dont l'humour fait partie.
Et si on est seul, isolé, qu'est-ce qu'on fait, Virginie Goud ?
Alors nous, ce qu'on conseille, c'est de rejoindre des journées type accueil de jour, de passer la journée dans un centre où on vous accueille le matin jusqu'au soir. Et on va vous proposer des activités de stimulation cognitive, pour le lien social, d'activités physiques, justement pour rompre cet isolement qui est très important.
Et on peut également rejoindre une association du type France Alzheimer, bien évidemment. Alors, comment mieux communiquer avec le malade d'Alzheimer ? Vous proposez dans votre livre, Virginie Lefebvre-Desnouettes, des conseils à faire et à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on souhaite bien communiquer avec un malade et surtout ne pas faire ?
Alors, la première des choses, c'est accrocher le regard du malade, hein, qui va vous regarder et vous êtes sûr que vous êtes en phase avec lui et qu'on va pouvoir dérouler ce qu'on a envie de dire. On a bien dit qu'il perdait la parole, donc il faut qu'il puisse comprendre. Vous imaginez qu'avec le masque, c'est bien compliqué. Donc la position basse est la meilleure. On appuie sur l'avant-bras, moi je m'accroupis, c'est pour ça que j'ai des cuisses en béton, hein, et parce que j'ai un nom compliqué, donc c'est compliqué à dire. Et quand je dis que je suis psychiatre, la plupart du temps, ils disent « Ah, enfin quelqu'un qui va m'écouter ». Donc, à ne pas faire, c'est être soi-même stressé, être dans des injonctions, des phrases compliquées, hein, tu veux, ou des choix impossibles. Tu veux le cardigan rouge ou le cardigan vert, ou il pleut ou il ne pleut pas. Ça, on le garde pour soi. Et on propose deux choix, hein, des choix qui sont fermés. Et ou s'ils ne veulent pas, eh ben non. Moi, les patients qui ne veulent pas manger, qui crient, qui tapent sur la table, qui hurlent, je les prends par le bras et je dis bah, « Tiens, aujourd'hui, c'est moi qui vous invite au restaurant ». Et les patients viennent. Leur mémoire ancienne reste. le plus longtemps active.
Et surtout, ne pas traiter la personne atteinte de cette maladie comme un enfant, comme une enfant, Virginie Goutte.
Tout à fait, parce qu'ils ne sont pas des enfants, ce sont des adultes, certes, de 80 ans, de 85 ans, avec des troubles cognitifs, mais ce ne sont pas des enfants, il ne faut pas oublier ça, ils ne le font pas exprès non plus, donc il ne faut pas dire « Ah, mais ils font exprès, c'est pour m'embêter, etc. »
Comment faire face à l'évolution de la maladie? Je pense par exemple aux comportements qui peuvent être de plus en plus agressifs, qui peuvent dérouter l'entourage. Comment faire face à des troubles du comportement?
On privilégie toujours les thérapeutiques non médicamenteuses. On diffère, on change l'objet qui devient terrifiant tout d'un coup, parce qu'il peut y avoir un peu de délire, un peu d'hallucination. On a besoin quelquefois de médicaments, mais vite, on va les arrêter. On met une ambiance sonore qui est agréable, pas de trop de bruit, pas de fête de famille, et on propose de sortir tout simplement, de changer de lieu. Et ça, c'est des choses qui sont très très simples à mettre en œuvre au lieu de se précipiter sur des neuroleptiques ou des médicaments qui finalement vont acutiser la maladie d'Alzheimer.
Docteur Curté.
Oui, tout à fait. Bon, c'est de prouver que ces médicaments, benzodiazépines et autres, aggravent, mais aussi des tas de petits médicaments, des décongestionnants qui vont contre l'acétylcholine, alors que c'est un neurotransmetteur très important, ou les pansements gastriques à l'aluminium. Bon, l'aluminium n'est pas très toxique, finalement, on l'avait accusé.
Oui, c'est vrai qu'on l'a entendu il y a quelques années.
Par contre, il reste quand même embêtant, c'est un pro-oxydant, et on a des bonnes études en France qui montre qu'il y a, s'il y a plus d'eau d'aluminium dans l'eau, qui est utilisé comme un flocculant, mais ça augmente le risque. Et par contre, le silicium qui précipite l'aluminium, au lieu de se précipiter dans le cerveau, ça se précipite dans le tube digestif et ça s'en va, ça protège.
On a des études sur ça, Virginie Goutte?
Alors, il y a quelques études à ce sujet que je maîtrise pas trop. Par contre, là, c'est moins ma thématique, je vous l'avoue. Mais en effet, parce qu'on revient souvent sur nos hypothèses, parce qu'il n'y a aucune certitude à l'heure d'aujourd'hui.
Oui. Tiens, Catherine nous demande par mail si l'anxiété, le stress sont des facteurs qui peuvent favoriser la maladie d'Alzheimer. Et j'ajouterais, est-ce que la dépression également sont des facteurs de risque?
Tout à fait, surtout quand elle perdure. Donc, quand on est anxieux, un peu de stress, ça vous booste. Tout le monde connaît ça. On part en courant, on est hyperactif, etc. Mais trop de stress, le stress chronique va annihiler tout le message mémorial qui est dans notre petit hippocampe, et c'est le cortisol qui va là de nouveau stresser ce pauvre, mais au sens propre du terme, physique du terme, ce pauvre hippocampe qui va être tout rabougri, et la dépression la même façon. Or, une dépression, je sais la repérer, je sais la guérir. Ça, c'est un message très important, et je forme tous nos nouveaux médecins à la détection de la dépression chez le sujet âgé et surtout à sa prise en charge.
Virginie Goutte.
Et d'ailleurs, quand on parlait au début du parcours de diagnostic, on recherche d'éventuelles dépressions, anxiété, justement pour traiter cette dépression et pas faire un diagnostic, un faux diagnostic, en tout cas pour se poser les bonnes questions, parce qu'on sait traiter la dépression.
Tiens, nous recevons Armel. Bienvenue Armel, vous appelez de Marseille.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Donc moi je vous appelle parce que j'ai 47 ans et ça fait plusieurs années que je suis parfois impressionnée par les oublis ou les mélanges que je fais dans ma tête de trucs que je devrais vraiment pas mélanger, qui sont des choses qui font partie de ma vie de façon évidente. Et je suis allée faire des tests, je suis allée dans un service à l'hôpital public spécialisé dans la mémoire, ils m'ont fait passer des pré-tests. Et en gros, je caricature à peine parce que je me souvenais du nom du président de la République et j'étais capable de me souvenir de 5 chiffres sur 5 minutes. Elle m'a dit, mais vous n'avez pas de problème de mémoire. En gros, c'était limite, vous me faites perdre mon temps. Et du coup, je ne sais pas quoi faire. Ouais. je ne sais pas quoi faire parce que ça continue à m'impressionner. Et comme j'entends dire tout le temps qu'Alzheimer, il faudrait pouvoir le détecter avant, mais on ne peut pas. Je comprends pas en fait pourquoi un patient qui arrive jeune en se disant j'ai peut-être des problèmes de mémoire, Alzheimer ou pas, mais en tout cas il y a un truc qui est pas normal, et à chaque fois on me dit oui, est-ce que vous êtes stressé, est-ce que vous êtes dépressif, bon bah pourquoi pas. Mais du coup qu'est-ce qu'on fait,
hein? Je vais peut-être vous rassurer. Toute plainte mnésique est entendable. Ils viennent dans ma consultation mémoire, des gens jeunes comme vous, et tout à fait entendable. Alors, vous n'avez pas de troubles de la mémoire, mais vous avez des troubles de l'attention et de la concentration, qui sont typiques des troubles anxieux ou des troubles dépressifs. Donc, ce n'est pas une maladie d'Alzheimer. Rassurez-vous, tant mieux, hein, et il faut arriver à avoir une hygiène de vie qui fait que vous courez pas toute la journée, que vous avez un sommeil de bonne qualité, que vous allez apprendre à faire un peu de relaxation, à soigner autrement vos troubles anxieux.
Virginie Goutte.
Alors je confirme, toute plainte cognitive doit être explorée et on doit être capable de vous entendre parce que souvent déjà ça rassure le patient de venir nous voir et de faire ses premiers tests et en général à votre âge en effet c'est plutôt une plainte attentionnelle qui se répercute sur vos capacités mnésiques qu'une maladie d'Alzheimer à proprement parler.
Merci beaucoup Armelle de nous avoir appelé. Alors il n'existe pas pour l'instant de traitement curatif contre la maladie d'Alzheimer, on verra dans un instant les espoirs de la recherche avec Thierry Lhermitte. Mais il existe des médicaments symptomatiques de la maladie d'Alzheimer, des médicaments qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché, c'est ça ?
Oui, mais ils ne sont plus remboursés depuis 3 ou 4 ans.
Ils servaient à quoi ces médicaments-là ?
C'était des médicaments parachutes, on va dire.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'ils ralentissaient la maladie d'Alzheimer et évitaient une institutionnalisation, ça faisait reculer de 3 ans l'institutionnalisation. Et c'était des médicaments qui boostaient l'acétylcholine dans les synapses. Alors c'est des neuromédiateurs qui était tout à fait diminué dans la maladie d'Alzheimer. Mais il y a eu des effets secondaires, peu de résultats parce que 40% des patients répondeurs avaient une amélioration de leur qualité de vie et ils ont été déremboursés. Donc on n'en prescrit quasiment plus aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'au niveau des médicaments, nous n'avons pas de pharmacopée, mais nous ne savons bien les prendre en charge aujourd'hui. Autrement que par un médicament qui va guérir.
Par exemple ?
Mais par exemple, dans les programmes de soins, de stimulation cognitive, à la fois au niveau du cerveau, mais à la fois au niveau du corps. Une demi-heure de marche par jour fait reculer la maladie d'Alzheimer de 30%. Diminuer, vous savez, il y a deux chiffres dans la tension artérielle. Si on a 17-12, si j'ai 15-10, eh ben je diminue la maladie d'Alzheimer de 30%. Nous avons tout un tas de faisceaux d'action simples à mettre en œuvre, peu coûteuses, pour prévenir.
Virginie Goutte.
Alors tout à fait, ce qu'on sait très bien faire, ce sont toutes les prises en charge non médicamenteuses qu'on met en avant. Donc l'activité physique, le fait de sortir, de rencontrer du monde, de vivre en fait, tout simplement, de vivre, on oublie, mais le fait de rencontrer ses amis, d'aller au cinéma, d'aller dans des expositions, ça stimule nos facultés cognitives et ça peut retarder l'évolution de cette maladie.
Alors sur quel levier, sur quels autres leviers est-il possible d'agir pour essayer de prévenir le plus tôt possible la maladie d'Alzheimer, docteur Jean-Paul Curté ? Vous proposez dans votre livre un programme global pour mettre toutes les chances de son côté.
Oui, parce que heureusement, ça c'est historique, on a, si vous voulez, fait des percées. Il y a eu une étude à Toulouse qui s'appelle MAPT, qui a confirmé après bien d'autres, ce que vous disiez le docteur Nouette, c'est les effets très positifs de l'activité physique. Alors ça surprend, parce que quand on marche, on muscle pas ses neurones.
Et pourtant, il existe une neurogénèse dans l'hippocampe notamment.
Absolument.
La formation de nouveaux
oiseaux chanteurs.
Voilà, exactement, la formation de nouveaux neurones dans l'hippocampe.
Absolument.
Grâce à l'activité physique. Alors, régulière.
Pas seulement, si vous voulez, Alice, c'est aussi l'énergétique. C'est-à-dire que quand vous contractez vos muscles, vous envoyez un signal qui s'appelle PGC1-alpha, bon, technique, qui multiplie les petites mitochondries, les centrales énergétiques. Mais si vous voulez, ça circule dans le sang. Et donc le neurone, même s'il fait pas d'exercice, il multiplie ses mitochondries. Or, on sait très bien maintenant que dans l'Alzheimer, il y a un problème énergétique. Les mitochondries sont réduites et fonctionnent mal. Donc l'activité physique, c'est sûr et certain,
et dans
c'est
l'assiette, frappant. Et dans l'assiette, mieux vaut privilégier une alimentation anti-inflammatoire à dominante végétale, selon vous et selon peut-être certaines
Absolument.
Études.
Absolument, bon, ça c'est un consensus mondial. Toutes les agences de santé aujourd'hui disent manger plus de fruits et de légumes. Mais si vous voulez, on a encore tendance à avoir énormément. Regardez le caddie à la sortie des caisses. Manger varié, mais quelle variété ? Bon, c'est ça. Le problème des produits industriels, ultra transformés, bourrés d'additifs qui altèrent la flore. La flore aussi participe à l'inflammation, bas bruit. Si vous voulez, dans l'Alzheimer, comme toutes les maladies dégénératives, il y a de l'inflammation. Le stress lui-même, dont vous avez beaucoup parlé, il a une dimension inflammatoire. Il fusille aussi, comme vous l'avez dit, directement les neurones de l'hippocampe avec le cortisol. Donc, si vous voulez, on peut agir sur tout ça. Et l'assiette devrait donc faire régner d'abord les végétaux. Mais bon, il y a quand même quelques exceptions. Les femmes enceintes, quand vous avez un goût de fer, voilà, des ados en forte croissance. Mais sinon, les hommes mangent trop de viande. Les femmes après la ménopause n'en ont plus besoin, en fait. Donc, si vous voulez, il faudrait se calmer là-dessus.
Docteur Desnouettes, d'Odeline.
Bon, j'aime bien les protéines. Bon, le poisson gras, ou le poulet. On mange moins de viande rouge, bien sûr. Mais il faut quand même un apport de protéines. C'est le régime crétois.
Le régime méditerranéen, voilà. En fait. Mais on y revient toujours.
Exactement, on y revient toujours.
Les protéines végétales.
Oui. Tout à fait. Donc, tout ce qui est hygiène de vie, en fait. Donc on rappelle les conseils d'hygiène de vie qu'on a appris depuis notre plus jeune âge.
Mais on les rappelle toutes les semaines dans cette émission. mais disons que pour la semaine dernière, on a fait une émission consacrée à l'accident vasculaire cérébral. C'est le régime qui permet de prévenir l'AVC est également bon pour prévenir, dans la mesure du possible, la maladie d'Alzheimer. Oui. C'est le régime, on l'a dit, donc le régime de type méditerranéen.
Absolument. Et les huiles aussi, c'est très bon. Et boire beaucoup d'eau, un tout petit peu de vin blanc, puisqu'il y a des antioxydants dans le tanin.
Un petit peu rouge, 10 fois plus.
Et du vin rouge, un verre par jour, quand on ne conduit pas.
Hein. Et le tabac
ben non, si on est un gros fumeur, il faut vraiment
réduire. Il y a des facteurs de risque d'Alzheimer.
Oui, bien sûr, parce qu'ils vont vous donner le tabac en excès, ils vont détruire vos petites artères. Et on va avoir une neuroangiopathie. Et ça ne sera pas bon. Vous aurez des infarctus, vous aurez des AVC ou des AIT.
Allez, dans un instant, nous verrons quels sont les espoirs en matière de recherche en compagnie de Thierry Lhermitte de la Fondation pour la Recherche Médicale. En attendant, on écoute l'un de ses titres préférés, Cassidy, qui interprète Souterrain. Cassidy, interprété Souterrain.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
C'est le psychiatre allemand Alois Alzheimer qui a décrit la maladie en 1906. Son diagnostic repose sur trois éléments. Des troubles cognitifs, problèmes de mémoire, désorientation dans le temps et l'espace, accompagné de deux lésions qu'il observait déjà dans le cerveau de ses patients après leur mort. On pense que les deux types de lésions se forment bien avant l'apparition des symptômes. Les plaques séniles constituées de protéines bêta-amyloïdes. Et les dégénérescences neurofibrillaires constituées de la protéine tau. Les deux lésions vont ensemble, mais on ne sait pas laquelle initie le processus. On s'interroge particulièrement à propos des plaques bêta-amyloïdes, ou plaques séniles. En temps normal, le cerveau parvient à évacuer l'amyloïde. Mais il arrive que ce mécanisme se dérègle. Elle s'accumule alors et forme ces plaques qui sont disséminées dans le cerveau.
Extrait d'un reportage de la RTS en mai 2019. Thierry Lhermitte, on vous retrouve donc tous les mois dans Grand Bien Vous Fasse en tant qu'ambassadeur très investi de la Fondation pour la Recherche Médicale et à l'approche de la Journée Mondiale Alzheimer. Demain, vous vous êtes rendu à l'Institut François Jacob du CEA de Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine pour visiter le laboratoire de Ronald Melki. Il est directeur de recherche au CNRS et avec son équipe, il étudie les anomalies de certaines protéines dans les maladies neurodégénératives, neuroévolutives. Et en particulier dans la maladie d'Alzheimer, et son laboratoire est financé par la FRM.
Et comme on vient de le dire dans l'émission et dans le reportage, dans la maladie d'Alzheimer, on observe deux types de lésions, les plaques amyloïdes et la protéine tau. Et tau, faut le dire, c'est T-A-U, c'est la lettre grecque, c'est pas tau, T-O-T.
T-A-U, et c'est cette protéine tau qu'étudie justement Ronald Melki.
Absolument, et elle est fascinante, vous allez voir. Tau, c'est une protéine qui passe son temps à changer de forme. Certaines de ces formes ont la propriété de se coller et de former ces fameuses fibres qui sont toxiques pour les neurones. Mais, comme la nature est bien faite, il existe des protéines appelées chaperons moléculaires dans la cellule qui les capturent pour les conduire à des structures spécialisées, les protéasomes, qui les détruisent et recyclent leurs composants.
Alors d'où vient le problème si ces fibres sont détruites au fur et à mesure?
Eh bien en fait, avec le vieillissement, ce système de destruction perd de son efficacité. Donc, à force, les agrégats de protéines tau grossissent, s'accumulent dans les neurones et les perturbent en les déconnectant les uns des autres. C'est ce qui les fait mourir car les neurones fonctionnent uniquement en réseau. Mais il y a pire. L'équipe de Ronald Melki a montré qu'en mourant, les neurones libèrent les fibres toxiques qu'ils contenaient, qui vont aller se fixer à la surface des neurones sains, y pénétrer et se multiplier en recrutant les protéines tau saines, avant de faire mourir ces neurones à leur tour. Et en se propageant ainsi de neurone en neurone, les fibres tau finissent par envahir le cerveau et altérer toutes les fonctions cognitives.
Mais dans ce cas, nous devrions tous avoir la maladie d'Alzheimer en vieillissant. Ce n'est pas le cas, heureusement.
Et oui, en effet, car nous ne sommes pas tous égaux. Certaines personnes, du fait de leur gène, ont un système de destruction plus efficace qui permet de limiter la formation des fibres tau.
Alors, quel est le projet de Ronald Melki pour contrer l'accumulation anormale de la protéine tau?
Alors, il y avait plusieurs directions de recherche. La première option, c'est couper les fibres pour tenter de revenir à la protéine tau non agrégée. C'est ce que l'équipe a tenté, mais ça n'a pas marché car ça a généré de très nombreuses petites fibres qui ont démultiplié l'activité toxique. C'était donc pire. Autre option, piéger les fibres pour les empêcher de pénétrer dans les neurones sains et de se multiplier. C'est cette approche qui a finalement été choisie et sur quoi travaille l'équipe actuellement.
Comment peut-on piéger ces fibres tau?
Pour que les fibres rentrent dans les neurones, il faut d'abord qu'elles trouvent des points d'accroche. On appelle ça des récepteurs qu'il fallait identifier. Et pour ça, les chercheurs fabriquent au laboratoire des agrégats de protéines tau et ils les mettent sur des neurones en culture. Ils observent ensuite ce qui se passe. Grâce à des techniques de microscopie dynamique et des manipulations très sophistiquées, ils peuvent observer et manipuler à l'échelle des molécules elles-mêmes. Ils ont donc identifié plusieurs récepteurs, dont deux principaux.
Et une fois ces récepteurs identifiés,
Ronald Melki veut comprendre précisément comment se font les contacts entre les fibres et leurs récepteurs et faire en quelque sorte un relevé topographique des régions des fibres qui interagissent avec les récepteurs. C'est extrêmement complexe car il faut imaginer que la surface des fibres est dynamique, elle se déplace, se déforme, sont composées de molécules diverses et qu'il n'y a malheureusement pas qu'un seul récepteur. Grâce à ces avancées, Ronald Melki veut ensuite fabriquer des petites protéines capables de se fixer aux fibres tau de la même manière que les récepteurs.
Pour piéger les fibres du coup.
Exactement. Et il imagine deux applications. La première, c'est le diagnostic précoce de la maladie. En marquant ces petites protéines pour qu'on puisse les voir en imagerie cérébrale. Et la seconde, c'est dans un objectif thérapeutique. En utilisant ces petites protéines très tôt comme des leurres. Pour capturer les fibres avant qu'elles ne se fixent sur les neurones et ne se propagent dans le cerveau. Et il espère ainsi pouvoir retarder l'apparition des symptômes en gagnant quelques années sur la maladie. Et comme Galilée, qui a pu décrire le mouvement des planètes grâce à l'élaboration d'un télescope performant, les progrès de la recherche médicale ont permis, par des avancées technologiques fabuleuses de ces dernières années, en particulier en matière de microscopie. Donc il faut financer la recherche dans tous ces domaines et c'est ce que fait la FRM. Grâce à vos dons.
Et comment aider la Fondation pour la Recherche Médicale à la veille de cette journée internationale d'Alzheimer?
Pour Alzheimer.
Je fais en même temps, là.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que je tape?
Un SMS au 92-300.
92-300.
Voilà. Et comme message, vous mettez oublie.
Oublie, je suis en train de le faire.
Voilà. Et vous envoyez.
Voilà,
vous demandez une confirmation et 10 € seront prélevés sur votre facture téléphonique. Et qui iront directement à la recherche sur Alzheimer.
Ben oui, voilà. Je viens de confirmer. Parce que c'est absolument fabuleux, hein, cette recherche de l'équipe de Ronald Melki. Docteur Desnouettes.
Merci, merci de nous prévenir que l'avenir
ça avance.
Ça avance.
C'est à 2 ans. Ils espèrent des résultats très concrets, là, dans les 2 ans qui viennent.
Oui, tout à fait.
Ces progrès technologiques sont indispensables, mais il y a une bonne nouvelle quand même, c'est dans les percées qu'on arrive à dégager ces protéines tau et les anormales pendant la nuit. Donc, quand on dort...
Avec les cellules gliales, dans le cerveau, notamment.
Notre énergie n'est pas utilisée pour bouger, pour penser. Et donc, les cavités se dilatent. On appelle ça la fonction lymphatique. 40 à 60%, on douche notre cerveau. Oui. Ça permet de les éliminer. Donc,
mais il faut quand
bien
même
dormir.
Il faut quand même aider.
Bien dormir, c'est extrêmement important.
Mais il faut quand même aider la recherche. Absolument, Virginie Goutte, sur ces recherches.
Oui, tout à fait. C'est important de mettre ces travaux en lumière parce que les familles et les patients ont l'impression que la recherche de la maladie d'Alzheimer évolue très lentement. Mais il y a de l'espoir.
On rappelle le numéro
92 300. Et le message, c'est oublie, et les 10 euros iront à la recherche pour Alzheimer.
Merci beaucoup, docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes. Je recommande vraiment cet ouvrage très complet, très pédago, Que faire face à Alzheimer, gagner des années de vie meilleure, qui a reçu d'ailleurs le prix Littré. C'est publié au Rocher Poche. Merci Jean-Paul Curté, docteur Jean-Paul Curté. Vous n'aurez pas Alzheimer, c'est publié chez Le Duc. Merci également Virginie Goutte d'être venue. Demain, on s'intéresse au plaisir de dire des gros mots avec le mensuel Cerveau et Psycho. Quels sont vos gros mots préférés? N'hésitez, en toute amitié évidemment.
C'est chouette.
N'hésitez pas à nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter.